Le journal présenté par Adrien Toffolet.
Bonjour. Journée capitale pour Jean-Luc Mélenchon avec la manifestation des Insoumis à Paris tout à l'heure. Il est impératif pour le leader de la France Insoumise de rassembler un maximum de monde dans la rue pour s'affirmer comme le premier opposant à la politique d'Emmanuel Macron. Éclairage de Sophie Delpont en direct du départ place de la Bastille. Vers une refondation du Front National sans Florian Philippot et avec une Marine Le Pen en pleine tournée nationale pour s'afficher comme la seule responsable en mesure de faire évoluer le parti. Le Kurdistan irakien face aux pressions internationales à deux jours du référendum d'autodétermination, pression qui pourrait finalement bien avoir leur petit effet tant la situation économique et politique est fragile. En Espagne, en revanche, peu importe la position hostile de Madrid, la Catalogne continue de se mobiliser pour la tenue du référendum pour son indépendance. Et puis à la fin de ce journal, la Bulle Écho par Marie Viennot qui se penchera cette semaine sur le CETA, l'accord de libre-échange. La France Insoumise est-il le grand parti d'opposition à la politique du gouvernement ? Réponse cet après-midi dans la rue avec le rassemblement des Insoumis et des sympathisants de la gauche de la gauche. Il faut dire que jeudi, la mobilisation de la CGT n'avait pas réussi à mobiliser les foules. Il y a donc une place de porte-étendard de la contestation sociale à prendre. Les sympathisants se rassemblent en ce moment même, place de la Bastille, où vous trouvez Sophie Delpont. Bonjour.
Bonjour.
Alors pour Jean-Luc Mélenchon, cette manifestation contre le coup d'état social d'Emmanuel Macron, comme il l'a défini, est l'occasion de montrer qu'il est finalement le seul qui parvient à mettre en mouvement la colère sociale.
Oui, pour réussir la mobilisation, le mouvement a acheminé près de 8000 militants en bus de toute la France. Ils s'assemblent doucement, place de la Bastille. La chorale insoumise s'échauffe sur les marches de l'Opéra. En entonnant, vous l'entendez, le chant des partisans et plusieurs slogans aussi contre ce qu'ils qualifient de coup d'état social. Bonnet phrygien sur la tête, Pierre est venu de Toulouse, parti hier soir à minuit. Fonctionnaire territorial, il s'inquiète pour l'avenir de la jeunesse, mais aussi des futures coupes dans les budgets des collectivités. C'est la première fois qu'il participe à un rassemblement à Paris à l'appel de la France Insoumise. C'est le cas aussi de Kevin, étudiant de 23 ans venu du Vaucluse. Pour lui, la bataille n'est pas finie, même si les élections sont passées. Sur sa pancarte, on peut lire « Macron, ubérisation, fiscalisation, paupérisation, précarisation ». D'autres slogans anti-CETA aussi et contre la politique du gouvernement. Claude est lui venu de Marseille, il est au chômage, il a fait le trajet gratuitement dans un bus France Insoumise. Ce qu'il a décidé, c'est le plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif. Un drapeau Front de Gauche flotte en ce moment sur la foule. Christian et Gérard sont retraités, ils sont venus du Gers et ils espèrent qu'un front politique uni soit donc une force qui émerge aujourd'hui face au gouvernement. Tous ici souhaitent un recul sur les ordonnances et plus largement un mouvement de contestation puissant pour peser dans les prochains mois.
Merci Sophie Delpont avec les moyens techniques de Jean-Marie Porcher en direct de la place de la Bastille. Et pendant que l'opposition manifeste contre la réforme du Code du Travail, cette dernière poursuit son chemin. Les ordonnances sont depuis ce matin publiées au journal officiel, ce qui signifie que certaines d'entre elles, comme le droit au télétravail ou la barémisation des indemnités prud'homales, s'appliquent dès aujourd'hui. Les autres seront complétées par des décrets en fin d'année. Marine Le Pen, elle rencontre en ce moment même les militants FN toulousains dans le cadre de la tournée nationale de refondation de son parti. Une refondation qui se fera donc sans Florian Philippot, avec une patronne du FN déterminée à montrer que le changement du Front National ces dernières années, c'était elle. Alors pour le futur, il en sera de même Aurélien Colli.
Souriante et détendue Marine Le Pen, le départ de Florian Philippot, c'est tout simplement un non-événement.
Je regrette sa décision, mais le Front National s'en remettra, pour moi, c'est déjà du passé.
Un peu surjoué quand même, la prise de distance avec son ancien numéro 2. Un peu agacé d'ailleurs Marine Le Pen quand on lui demande si le FN n'a pas perdu son aile gauche. Un Florian Philippot qui avait ouvert et normalisé le parti.
Cette ligne ni droite ni gauche, je l'ai portée, conçue et incarnée. La dédiabolisation, j'en ai été quand même la première instigatrice. Par conséquent, ceux qui voudraient faire croire aujourd'hui que le départ de Florian Philippot ferait disparaître ces éléments commettraient une erreur d'analyse.
Patriote contre mondialiste, c'est le nouveau clivage qui a balayé le traditionnel gauche-droite, insiste encore Marine Le Pen. Elle promet de refonder le FN comme il ne l'a jamais été depuis sa création. Revoir les rapports avec la presse, les alliances avec d'éventuels partenaires, produire réflexions et nouvelles idées en repartant de la base.
L'implantation locale a toujours été une de mes priorités. Je crois que cette implantation locale, elle est plus que jamais fondamentale parce que, encore une fois, Ça ne peut pas tomber d'en haut.
Objectif, être à nouveau en ordre de marche pour les prochaines municipales, car ce sont les villes FN qui ont donné ensuite au parti des députés ou des sénateurs.
Le congrès de refondation du Front National se tiendra le 11 mars 2018, a annoncé ce matin Marine Le Pen, qui entend y porter une ligne ni droite ni gauche. À deux jours du référendum d'autodétermination du Kurdistan irakien, les pressions régionales et internationales sont immenses, pressions qui doivent dissuader, en théorie, le président Massoud Barzani de maintenir le scrutin et qui font visiblement leur petit effet. La conférence de presse qu'il devait donner ce matin a été reportée à demain. À cela s'ajoutent quelques nouvelles déclarations de responsables kurdes. Ils affirment que la victoire du oui n'entraînera pas illico l'annonce de l'indépendance. Elle sera, selon eux, un moyen de pression pour arracher au pouvoir centrale de Bagdad des concessions sur les contentieux liés au pétrole et aux finances. Une petite phrase qui en dit long, Omar Waman, sur les vraies motivations de ce référendum dans une région qui a connu la prospérité et qui est en grave crise économique.
Il y a le contexte économique qui est catastrophique pour cette région du nord de l'Irak, qui a bénéficié de la manne pétrolière depuis plusieurs années et qui vend son pétrole directement sans passer par le pouvoir central de Bagdad, qui a amené ce pouvoir central irakien à décider de ne plus reverser 17% environ du budget fédéral. C'est ce que prévoyait la constitution de 2005. Donc cette région du Kurdistan irakien a fait cavalière seule en quelque sorte pendant plusieurs années, mais la chute du prix du baril de pétrole a provoqué un manque à gagner. Les caisses aujourd'hui sont vides. C'est une région qui n'a plus les moyens de payer ses fonctionnaires. Les fonctionnaires ont des salaires qui ont été rognés de environ 40, 50, voire 60%, ce qui a provoqué une grogne sociale. Il y a eu des manifestations pendant plusieurs mois. Il y a même des actes de violence. Donc on a une situation économique qui n'est vraiment pas très bonne. Et ensuite, il y a le volet politique. Massoud Barzani est à la tête de cette région depuis plus de deux mandats. Son dernier mandat, non renouvelable, s'est terminé en 2013. Et depuis 2013, il se maintient au pouvoir, notamment à la faveur de la lutte contre le groupe État islamique. Daesh a fait une offensive fulgurante en juin 2014 pour arriver jusqu'aux portes de ce Kurdistan irakien. Et compte tenu de la situation exceptionnelle, eh bien, il s'est maintenu au pouvoir. Donc, il y a l'aspect économique catastrophique, les caisses sont totalement vides. Et il y a une volonté aussi politique de se maintenir au pouvoir et de mettre aussi la communauté internationale face à une réalité qui est celle d'un dialogue qui est rompu entre Bagdad et le Kurdistan irakien, et aussi la volonté de pousser cette communauté internationale à demander à ce que Bagdad prenne en compte la chute du prix du pétrole pour renflouer les caisses du Kurdistan irakien, car le Kurdistan irakien n'est pas un État. Il ne peut pas faire appel au marché, il ne peut pas emprunter sur les marchés, il ne peut pas faire appel au Fonds monétaire international ou à la Banque mondiale. Donc il est contraint d'appeler à ses concitoyens et bien de faire un effort. Et cet effort-là, les Kurdes sont prêts à le faire. Ils le font depuis plusieurs années, mais la grogne est telle que nous sommes arrivés à un point de non-retour. Et ce référendum est en quelque sorte un point de non-retour.
Omar Waman, notre envoyé spécial à Erbil. L'indépendance, un sujet qui agite également l'Espagne depuis plusieurs semaines. Nous sommes à un tout petit peu plus d'une semaine avant le référendum d'autodétermination prévu le 1er octobre et la tension entre le gouvernement espagnol et les pro-indépendances est au plus fort. Le chef du gouvernement catalan reste de marbre face aux menaces et intimidations de Madrid. Les sympathisants, eux aussi, restent mobilisés. Hier, par exemple, à Barcelone, plusieurs centaines de manifestants ont fêté la remise en liberté après 72 heures de garde à vue de six hauts fonctionnaires de l'administration catalane, poursuivis pour désobéissance, préméditation et malversation. Gaël Joly, vous l'avez constaté devant le palais de justice, les Catalans sont de plus en plus déterminés à organiser ce référendum.
Peu importe les opérations policières, les perquisitions, les arrestations, au contraire, assurent les Catalans, ces coups d'intimidation du gouvernement espagnol ne font que renforcer leur détermination.
La bataille continuera la prochaine semaine. Avec le référendum, sera la culmination totale des problèmes de la Catalogne.
Nous irons voter, chantent depuis des semaines les manifestants dans toutes les rues de la Catalogne.
Vous allez aller voter ?
Oui, c'est sûr.
On va sortir de la rue, oui, tout le monde sera à première heure du matin à la porte pour voter. Oui.
Et l'annonce hier depuis Madrid du ministère de l'Intérieur d'envoyer un renfort d'escadrons de policiers dans la région est loin de les impressionner.
Ils viennent, il n'y a pas de problème. On ne fera rien.
No violence, pacifisme.
Oui.
Nous l'attendons, oui.
Nous attendez la police.
Oui, nous attendons la police, oui.
Nous sommes pacifistes. Nous voulons faire ce que nous voulons. Nous ne voulons pas de problème.
Et pourtant, en face, les forces de l'ordre pourraient bloquer les bureaux de vote dimanche prochain. En tout cas, aucun des deux camps ne semble prêt à faire marche arrière.
Et ce regain de tension et le renfort de police annoncé par Madrid, plusieurs milliers d'agents fait émerger des craintes de débordements violents lors du scrutin. L'exécutif régional catalan dispose notamment de ses propres forces de police, les Mossos d'Esquadra, au nombre de 17 000 environ. Un séisme de magnitude 3,4 ce matin en Corée du Nord, possiblement dû à une explosion selon le CENC, le service sismique chinois. L'épicentre de ce séisme est pratiquement le même que celui de la secousse signalée le 3 septembre. Septembre dernier, secousse due à un essai nucléaire. Pyongyang n'a pas encore confirmé ou non la nature de ce séisme. La Chine, ce matin, elle s'est mise en conformité avec les nouvelles sanctions de l'ONU contre la Corée du Nord. Les exportations de pétrole raffiné chinois, notamment, vont être restreintes. Des échanges commerciaux dont l'économie de Corée du Nord est très dépendante. Après la parole, les actes. L'Iran annonce ce matin avoir réussi un essai de missiles balistiques, engin d'une portée de 2000 km qui avait été présenté hier lors d'une parade militaire. Le président Hassan Rouhani avait alors déclaré que le régime prévoyait de renforcer ses capacités balistiques et ce, peu importe l'autorisation ou non des puissances étrangères. 12h41, l'heure de retrouver la chronique économique de Marie Viennot qui revient aujourd'hui sur l'application de l'accord de libre-échange, le CETA, une épine dans le pied d'Emmanuel Macron.
Bonjour, ça y est, 4 ans de négociations et depuis cette semaine, il s'applique. L'accord de libre-échange avec le Canada va supprimer les tarifs douaniers et représenter une économie de 400 millions d'euros pour tous ceux qui exportent vers le Canada. Ça, c'est la communication côté européen. Côté canadien, elle met en avant l'avantage pour les classes moyennes.
Cet accord est une excellente nouvelle pour les consommateurs.
Le CETA est bon pour la croissance, bon pour l'investissement, bon pour les emplois. Les arguments de ceux qui l'ont négocié sont connus, débattus et remis en question par les opposants au CETA qui, eux, espèrent encore pouvoir le faire abroger. Mais est-ce possible ? Légalement, oui. En pratique, c'est délicat. Car très souvent, les acteurs économiques n'ont pas attendu l'application, même provisoire, pour anticiper la levée future des barrières douanières. Une fromagerie française m'a dit avoir déjà investi 8 millions d'euros pour s'agrandir et se mettre aux normes sanitaires du Canada, pays où elle exporte déjà et espère exporter bien plus. Si le CETA meurt, ce serait une catastrophe pour toutes ces entreprises européennes et canadiennes qui ont parié sur sa mise en œuvre. Ces attentes économiques sont souvent jugées légitimes par les élus qui savent qu'ils jouent en plus la crédibilité de l'Union européenne au moment de la ratification. D'où l'impression que le provisoire ne peut qu'être confirmé et la démocratie confisquée aux entournures. Mais il y a quand même des cas où le provisoire s'annule, même dans l'Union européenne. Cependant, cette fois, le Parlement européen a ratifié le CETA. Dorénavant, la balle est dans le camp des 38 parlements nationaux ou régionaux de l'Union européenne. 32, plus exactement, car 6 ont déjà ratifié le CETA. Il y a quelques années encore, il n'y aurait pas eu de suspense. Mais aujourd'hui, les opposants au CETA citent 3 maillons faibles, les Pays-Bas, la Belgique et la France. La France, car dernièrement, la situation s'est compliquée. Pendant la campagne électorale, Emmanuel Macron avait promis un rapport indépendant sur les conséquences du CETA sur l'environnement. Ce rapport a été rendu il y a 2 semaines, le jour de sa fameuse phrase sur les fainéants. Clairement, cette petite phrase n'a pas aidé au retentissement médiatique de ce rapport qui, sans dire « attention, danger, ne pas ratifier », souligne les incertitudes que fait peser le CETA sur la sécurité alimentaire et les accords climatiques. Étrangement, le ministère des Affaires étrangères qui gère le dossier n'a pas cru bon de remettre à jour sa page internet dédiée au CETA. Les informations qu'on y trouve, au moment où j'écris, remontent à juillet 2016. Aucune mention de ce rapport dérangeant, aucune information officielle sur la suite des événements, encore moins une date de présentation du texte de ratification au Parlement français. Le CETA est dorénavant une épine discrète mais tenace dans le pied d'Emmanuel Macron. La démocratie, ce n'est pas la rue, nous dit-il, mais depuis 2015, cela peut l'être. Si 185 parlementaires, députés et sénateurs le demandent et qu'une pétition recueille 5 millions de signatures, il peut y avoir un référendum en France sur la ratification du CETA. Le président français, qui se veut par ailleurs le fer de lance d'une refondation démocratique de l'Europe à partir des citoyens, discours en grec à l'appui, vous l'entendez, aura bien du mal à s'y opposer. La course aux signatures, au Parlement et dans les rues, est lancée.
Merci Marie Viennot. La météo cet après-midi, le temps sera plus ensoleillé. Des nuages et des averses à prévoir dans le nord. Les températures maximales iront de 18 à 24 degrés sur la moitié nord et de 21 à 27 degrés sur la moitié sud.